Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Grimsy, un billet sans retour, une série en 4 épisodes, signée Gabriel Taïeb.
Novembre 1983. Habib Grimsy a été jeté du train Bordeaux-Vintimille et la France découvre l'affaire avec émoi. Au même moment, la marche pour l'égalité et contre le racisme, débutée un mois plus tôt, poursuit son chemin vers Paris et elle continue de grandir. Parfois réunis pour des raisons différentes, les marcheurs de la première heure et les nouveaux adeptes du mouvement portent cependant un message commun. Nous ne voulons plus compter nos morts. Je m'appelle Gabriel Taïeb et vous écoutez Grimsy, un billet sans retour.
En France, c'est un mélange de stupeur et d'indignation qui se manifeste un peu partout après l'assassinat horrible d'un jeune Nord-Africain de 26 ans.
Ils partent en chasse et trouvent Habib Grimsy, l'Algérien.
Les familles des jeunes maghrébins victimes du racisme ont manifesté dans la gravité. Les Français étaient nombreux à côté des immigrés pour témoigner leur solidarité.
Votre comportement est bien le seul comportement humain que la victime ait trouvé dans le train ce soir-là.
Épisode 3, un procès du racisme.
La marche pour l'égalité et contre le racisme est arrivée aujourd'hui à Paris. Les marcheurs étaient partis de Marseille dans l'indifférence, mais il y avait beaucoup de monde pour l'ultime étape.
Jour après jour, leur mouvement a pris de l'ampleur.
Et contre le racisme, parti le samedi 15 octobre de Marseille.
Plus la marche progresse, plus les soutiens affluent.
Les salauds qui les ont tués sont et resteront bien vivants, même en prison, d'où ils en sortent le plus souvent au bout de 4 mois. Cependant, il n'est pas question de vengeance, mais de la justice. Rien que la justice, une réelle justice.
Est-ce que le meurtre de Habib Grimsy entraîne une véritable prise de conscience des problèmes du racisme en France ? Difficile à dire. En tout cas, la médiatisation de l'affaire coïncide avec une mobilisation bien plus importante autour de la marche de 83. Les personnalités publiques et politiques sont de plus en plus nombreuses à défiler. Il faut prouver son engagement et afficher publiquement ses positions aux côtés des marcheurs. Nous avons interrogé l'historienne Ludivine Bantini sur les liens entre ces deux événements.
Oui, mais je pense que ça a beaucoup marqué parce que ça venait s'inscrire dans un cycle où ce racisme de plus en plus décomplexé devenait de surcroît non pas seulement violent symboliquement, mais devenait violent physiquement avec une série comme ça de meurtres racistes. Et donc il y a eu une manière autour de cet événement tragique de mêler encore une fois une auto-organisation populaire au sein des quartiers, au cœur même de cette gigantesque marche, enfin, celle qui est devenue gigantesque, et puis la presse qui a décidé vraiment de faire de ce meurtre un enjeu social absolument décisif. C'est encore une période au cours de laquelle les partis politiques sont à l'exception bien sûr du Front National vraiment sensibles à cette montée du racisme et où il y a quand même une sorte de consensus dans l'idée de la nécessité de lutter fermement contre le racisme.
Cette présence politique agace d'ailleurs certains des organisateurs qui voient là un début de récupération de leur mobilisation. Pour eux, la marche est avant tout une réponse spontanée, indépendante et citoyenne. Le 3 décembre 1983, la mobilisation réunit près de 100 000 personnes à Paris, son étape finale. Un succès historique qui reste dans les mémoires. Auréolée de ce succès, une délégation de marcheurs est reçue à l'Élysée par François Mitterrand. Pour Toumi Djadja, président de l'association SOS Avenir Minguette et figure de proue de la marche pour l'égalité contre le racisme, le message de la marche a bien été entendu par les Français et même par le président. Un succès qu'il faut toutefois nuancer, comme l'explique l'historien et politiste Emmanuel Blanchard.
Alors, si l'on considère que cette mobilisation s'est construite dans la dénonciation des violences policières, qui sont un des éléments forts, et dans la dénonciation du racisme, les effets sont à la fois forts du point de vue culturel et relativement faibles du point de vue de l'acquis législatif. Notamment, il n'y a pas de véritablement de grandes réformes de la police. En revanche, notamment l'arrivée de la marche, là il y a un effet culturel qui va constituer ce qui a été appelé le mouvement beurre. Et donc il va y avoir une visibilité et d'une certaine façon, dans une partie de la jeunesse, une distanciation vis-à-vis de ce racisme qui pouvait être dominant dans les décennies précédentes, ou en tout cas des incompréhensions qui pouvaient être dominantes dans les décennies précédentes. Il va y avoir une forme à la fois de réelle effervescence dans un certain nombre de celles culturelles et d'illusions que par les loisirs, la culture, il serait possible d'une certaine façon de passer outre les discriminations passées. Du point de vue législatif, la grande réforme qui est retenue, c'est ce qu'on a appelé la carte de séjour de 10 ans, adoptée en 1984, c'est-à-dire le fait que pour les étrangers habitant en France, le droit commun va être un droit de résidence de 10 ans sans avoir la nécessité de repasser chaque année devant les autorités préfectorales pour renouveler ces fameux papiers. Et cette revendication, elle a parfois été portée par une partie de ces marcheurs, dont une minorité était de nationalité étrangère et une autre partie était de nationalité française. Mais ce n'était pas sa revendication centrale. Mais ça va être, après qu'une partie des marcheurs a été reçue à Paris par le président de la République lui-même, la réponse apportée par le pouvoir socialiste à l'époque, mais à l'unanimité de l'Assemblée nationale sur le premier vote sur cette carte de séjour de 10 ans, à cette grande mobilisation de 1983.
Un bilan en demi-teinte donc, mais qui fait naître un espoir. Celui d'un changement, d'un réveil collectif, d'un mouvement en marche pour l'égalité. La France est-elle prête à changer ? Janvier 86, cour d'assises du Tarn-et-Garonne, à Montauban. 2 ans après l'assassinat de Habib Ghemzi et l'émotion qu'il a suscité, commence le procès sous tension de Marc Béhany, Anselmo Elviro Vidal et Xavier Blondel. La mémoire du meurtre du Bordeaux Vintimille reste vive, ranimée notamment par la sortie du film Train d'enfer de Roger Hanin, une fiction librement inspirée de l'affaire, par ailleurs interdite de projection dans le Tarn-et-Garonne pour ne pas influencer les jurés. Les associations contre le racisme répondent présentes, plusieurs d'entre elles se sont d'ailleurs constituées partie civile, et les journalistes sont nombreux pour assister à ce procès exceptionnel. Parmi eux se trouve notamment Jean-Baptiste Tarrant, qui suit alors l'affaire pour le journal Libération. À notre micro, il confie ses souvenirs.
C'était un procès exceptionnel, parce que c'était un crime exceptionnel. Il y avait beaucoup de monde, il y avait toutes ces parties civiles, il y avait tous ces militants, il y avait une ambiance à l'extérieur très lourde à cause de la campagne électorale. Il y avait des tags, les avocats ont reçu des menaces de mort. C'était une ambiance très lourde. La personnalité des accusés était assez spectaculaire, chacun dans leur registre. C'est un grand procès. Ouais.
Un des avocats des parties civiles retrouve notamment sa porte couverte de croix gammée. Le juge d'instruction reçoit quant à lui des dizaines de lettres du même acabit, glorifiant, selon leurs propres mots, l'acte de ces 3 patriotes qui ont eu le courage d'éliminer l'envahisseur.
Aux assises de Montauban, le procès des 3 candidats à la Légion.
Et les 3 légionnaires qui sont loin aujourd'hui de leur attitude arrogante du lendemain du crime.
Aujourd'hui, la cour d'assises s'est surtout intéressée à la personnalité des 3 accusés.
Les trois accusés ne disent plus l'arabe comme avant, ils disent avec précaution la victime, le pauvre garçon et même Monsieur Grimsy.
Cette affaire, c'est d'abord la manifestation d'une violence extraordinaire. Avant même de parler de racisme, il faut parler de ce déchaînement de la violence qui est quand même un des reflets de notre société. Hein, et chaque société a un peu les rambos qu'elle mérite.
Après 2 heures de délibéré, les jurés de la cour d'assises du Tarn-et-Garonne ont donc prononcé leur verdict.
Un vieil homme est venu à la barre, Monsieur Grimsy le père. « J'ai élevé mon fils, a-t-il dit au président, j'ai élevé mon fils comme on fait pousser un arbre. L'arbre est coupé maintenant. » Puis, il ajoute en arabe, dans le silence, « ma femme et moi avons la douleur, pas la haine. »
Le procès dure moins d'une semaine. Malgré quelques faits marquants, tels que l'absence du caporal-chef Logel qui s'est évanoui dans la nature, la déclaration d'Anselmo Elviro Vidal qui a réclamé qu'on lui inflige, je le cite, « la peine maximale pour ce crime dégueulasse », ou encore le rejet en bloc du motif raciste du crime par les trois accusés, ces derniers avouent leur implication dans la mort de Habib Grimsy. Au cours d'une plaidoirie, Jean-Louis Pelletier, l'avocat de la défense, interpelle les jurés et les invite à la mesure. « Vous pouvez piétiner les accusés, personne ne vous le reprochera », déclare-t-il, avant de poursuivre. « Mais ces trois-là ne doivent pas servir de défouloir ou d'exorcisme au racisme. » Après de courtes délibérations, le verdict tombe, sans grande surprise. Réclusion criminelle à perpétuité pour Anselmo Elviro Vidal et Marc Béhanni, et 14 ans d'emprisonnement pour Xavier Blondel, dont la responsabilité dans le meurtre a été jugée moins importante. À cause d'un vice de forme, Béhanni est jugé une deuxième fois en cassation l'année suivante. Cette fois-ci, il est condamné à une peine de 20 ans de réclusion. Pour l'historienne Céline Rognard, ce temps de la justice donne une nouvelle occasion aux journalistes de se saisir du meurtre de Habib Grimsy pour évoquer plus largement les violences racistes.
Le procès, il est très médiatisé. Hein. C'est une sorte de deuxième temps dans l'affaire du Bordeaux-Vintimille. Donc médiatisé dans les moindres détails. Il est extrêmement couvert, notamment par la télévision, mais aussi par la presse écrite. Et c'est l'occasion pour les journalistes de revenir sur les causes du crime, puisqu'il est établi à l'issue du procès que c'est un crime raciste. Donc, en 1986, l'expression « procès du racisme » revient dans la sphère médiatique. C'est comme si on faisait plus le procès de ces trois accusés, de ces trois personnes, qui sont d'ailleurs assez différentes les unes des autres, mais si on faisait le procès de la pensée raciste. Donc le verdict entraîne une certaine, s'inscrit dans une certaine normalité finalement dans ce cadre-là, puisque les accusés sont condamnés sévèrement, perpétuité pour les deux principaux accusés et 14 ans de réclusion pour un troisième. Et on sent dans les reportages télévisés qu'il y a une certaine satisfaction à l'issue de ce verdict. Donc c'est comme une sorte de second acte. Un second acte qui vient clore finalement un sentiment d'horreur qu'avait suscité ce fait divers 3 ans auparavant.
Alors, comme ça, explique l'historienne, une page se tourne. Mais jamais complètement, précise-t-elle, car au fil des années, quelques œuvres de fiction vont rappeler l'histoire de Habib Grimsy. Quelques commémorations aussi, comme en 2013, où une plaque commémorative en hommage à Habib Grimsy et aux victimes des crimes racistes et xénophobes a été inaugurée à Castelsarrasin. Mais que reste-t-il vraiment de la mémoire du meurtre de Habib Grimsy et de cette période de lutte après plus de 40 ans? Les combats défendus alors trouvent-ils encore un écho aujourd'hui? Et comment ne pas oublier sans rester dans le passé?
Vous venez d'écouter le 3e épisode de Grimsy, un billet sans retour, une série signée Gabriel Taïeb pour Podcasting. Pour la réalisation de cet épisode, nous nous sommes servis de courtes citations extraites d'archives d'Antenne 2, de FR3 et de France Inter, disponibles sur le site de l'INA. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.